Un autre nouveau bed, Pascal Sévin. Je te dis, on rock la place le midi maintenant. Vous êtes à l'émission On en jase pour réagir avec nous et on adore 418-971-102. En passant, Marie-Ève te fait dire que c'est pas une girouette. Il y a tellement de blessés à Montréal qu'il y a des nouveaux joueurs qu'elle aime.
Ah, oh, j'aime ça quand le monde répond. Non, mais mes accusations sont encore sincères. Là. Je pourrais enlever Marie-Ève de ça et une couple de personnes. Mais non, les femmes du Canadien, vous changez de préféré comme vous changez de babette.
Ouais, c'est le cas de Max Larouche, notamment, qui est avec nous le matin cette semaine.
Hey, Demeda, vous étiez étourdissant. Mais je vous trouvais beau, là. Je dis pas que c'est vous me permettez de vivre le sport à travers vous, le sport du hockey. Par contre... pas moi qui va se fier sur vos favoris
non,
maintenant.
C'est ça, hein?
Terminé ça, je me suis fait avoir. Là. Écoute, non, vous changez de produits favoris sur la glace, comme honnêtement,
là,
vous
Pascal,
buvez un café différent chaque
tu
jour.
Tu vas t'attirer de la haine de nos auditeurs et auditrices.
Prête à débattre, prête à débattre et à faire des statistiques, puis à vous parler de Demidov, le grand sauveur. C'était Moïse qui se séparait les eaux. Il n'y a pas si longtemps.
Oui, j'avoue qu'en
parlez
plus. J'avoue qu'après le premier match de Demidov, là, passé un but, une passe contre les Hawks. C'était pas mal Moïse qui séparait les autres. Ouais, t'as raison. BLVD.fm également pour nous écouter sur la web radio. Les meilleurs moments vont se retrouver là, notamment la conversation qu'on va avoir dans quelques secondes avec Luc Laliberté, expert en politique américaine. L'application BLVD 101 est disponible sur App Store, Google Play Store. Évidemment, le haut-parleur intelligent où on dit écoutez BLVD 102.1, twitch.tv/BLVD/FM. C'est toutes les façons de nous écouter à Boulevard 102. On va de ce pas rejoindre Luc Laliberté. Là, tant qu'à avoir jasé un peu de sport, Pascal, je vois Luc qui porte fièrement son chandail des Steelers de Pittsburgh. Luc, comment te sens-tu? Les Steelers sont en série.
D'abord, je tiens à corriger. T'as dit, il porte fièrement son chandail des Steelers. Le fièrement en a pris pour son rhume. le dernier match qui a permis d'entrer en série, ça nous a fait passer par toute la gamme des émotions. Le quatrième quart, c'est un morceau d'anthologie.
Oh,
les deux
oui.
équipes qui reviennent à la charge. Deux quarts qui n'ont pas baissé les bras. Puis deux botteurs, finalement, qui auraient pu faire la différence. Et c'est malheureusement pour lui le botteur des Ravens qui a raté le dernier placement. Mais si les Ravens avaient la chance de l'emporter sur le dernier botté, c'est que le Steelers, Boswell, qui est une machine en passant,
ben
qui
oui.
ne rate jamais.
Qui est sûrement le meilleur de la NFL.
Écoute, cette fois-là, il rate un botté littéralement de routine. Mais écoute, pour les amateurs de football, comme dernier match de la saison, dernier match pour entrer en série, c'était difficile d'imaginer plus fou et plus excitant que ça. Donc, le fièrement, c'est... on a eu un peu de chance aussi. Mais je suis bien content de continuer à le porter parce que j'ai pas confiance que les Steelers aillent jusqu'au bout. Ils n'ont pas l'équipe pour
non.
ça. Mais je vais quand même avoir une game de plus à écouter cette année contre les Texans.
Et c'est là qu'on voit les vrais fans, des faux fans en passant. Hein. Les bandwagon, on les a vus. Moi, je me suis fait ramasser parce que mon équipe, c'était les Bengals. Et là, il fallait tout le temps que je dise oui, mais je les suis depuis LSU, Chase, J.A. Burrow. Puis écoute, là, on est rendu perdant depuis une couple d'années et je suis encore là. Ce ne sera que la séparation du duo.
Exactement.
Ça remonte à l'enfance. C'était ma première veste achetée
wow.
avec mon argent.
Ah, oh.
C'était une veste des Steelers. Puis écoute, on a eu toutes sortes de bonnes années, des années plus difficiles, mais c'est Steelers jusqu'au bout, comme pour les Red Sox à Boston. Après les Expos, ça a été les Red Sox mm-hmm. au baseball. Donc, on reste. Mais c'est ça qui est le fun. C'est un
ben
jeu. Il ne faut pas l'oublier. C'est
pas.
De se créer une ambiance puis d'embarquer à fond. Là.
Exactement. Comme moi, c'est les Giants de New York jusqu'au bout. Donc, tu comprendras que je suis très patient à l'heure actuelle. Mais hier, je montrais à mon Edou, 16 ans. Et regarde, Edou, Jackson Dark, mon nouveau carrière recrue. C'est le premier carrière de l'histoire à avoir fait 200 000 verges, 20 passes de toucher, 5 interceptions et moins, 5 touchés par la course, 450 verges au sol. Là, c'est le premier de l'histoire, t'imagines? Et pour la petite histoire, Luc, mes gars m'ont remis le chandail officiel de Jackson Dart comme cadeau de Noël.
Oh, écoute,
alors,
ça,
tu comprends que là,
précieux.
J'étais un fan comble. Même si c'est 4 victoires, 13 défaites cette année pour mes Giants, puis que ça fait pas mal d'années que c'est de même, un fan comblé.
L'essence même du vrai partisan.
Exactement. Ben écoute, mon frère est parti des Browns de Cleveland, fait que ça peut pas être pire que lui. Je suis correct.
Rappelez-moi de pas miser avec vous deux sur les équipes.
Ouais, c'est ça, hein? Bon, Luc, on rit beaucoup quand on parle de sport, puis avec raison, parce que le sport, justement, ça nous fait oublier certains pendants de l'actualité. Ouais. Et là, est-ce que tu as été frappé par ce tsunami, comme tout le monde, en fin de semaine, quand Nicolas Maduro, le président vénézuélien, s'est fait complètement enlevé par les États-Unis et amené en territoire américain?
Puis j'essaie d'être le plus clair et le plus précis possible. On voyait venir quelque chose comme ça. On ne savait pas quand ça allait arriver et si on allait frapper au sommet aussi vite que ça. Donc, on savait qu'il y avait une prochaine étape, que le Venezuela était dans la mire de Donald Trump depuis un bout. On se doutait bien que c'était pas la lutte à la drogue, hein, pas mal. Plus personne ne tombait dans le piège. Mais quand on s'attaque au Venezuela pour le fentanyl puis qu'on n'en produit pas, que c'est de la coke et qu'on n'est pas un joueur majeur, on se dit, OK, il y a autre chose. Ça nous prend une excuse. L'excuse idéale avec la drogue, en passant, c'était la question de la sécurité nationale. Mm-hmm. On va y revenir parce que pour le Groenland, pour le Canada, pour d'autres pays, ce que Donald Trump invoque constamment depuis janvier 2025, c'est la question de la sécurité nationale. Donc, pas surpris que ça se produise. Que ça se produise là, ça, personne n'avait de boule de cristal. On s'attendait à ce que ça bouge, mais peut-être pas là. Et qu'on agisse en passant au plan militaire, là, et je suis désolé si ça choque des auditeurs, mais si on ne regarde qu'au plan militaire, l'opération tactique elle-même est impressionnante.
Et parfait.
Ça veut dire qu'on a tiré, on est parvenu à établir des liens avec des proches parce qu'on n'arrive pas si près du président, qui avait une chambre forte à côté, hein, en passant. Grosso modo, c'est je sors de ma chambre à coucher puis on s'en va dans la chambre forte. Pour l'intercepter comme ça veut dire que c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire que c'est un travail pour lequel on a tissé des liens sur le terrain. Puis ensuite, il fallait que l'exécution soit parfaite. Mais donc, Maduro, maintenant, a été livré pieds et poings liés. Il se retrouve à New York maintenant. Il a dit « je suis non coupable ». Il a défié les autorités américaines en même temps. J'ai eu beaucoup de choses aussi comme réaction. Il y a plein de gens qui, sur le coup, ont dit « enfin, Maduro est parti ». Et moi, je me souviens, sur Facebook, j'ai été moins actif là, dans les derniers jours, mais je me souviens d'avoir dit ou d'avoir écrit « oui, libéré, il n'y a personne qui va défendre un dictateur, il n'y a personne qui va défendre la corruption. Je veux bien que ce gars-là soit parti, mais est-ce que les Vénézuéliens sont libérés? » D'abord, rappelons que l'entourage de Maduro est toujours là. On a enlevé la tête, mais ceux qui sont actuellement au pouvoir, c'est le même groupe, c'est la même gang. Donc, attendons avant de parler de libération. Je comprenais les Vénézuéliens, certains d'entre eux, de célébrer dans la rue parce qu'ils détestaient Maduro. Ça, tout le monde est là. Donc, pour le Venezuela, attendons. Puis, bien sûr, c'est la nature de mon travail. Je regardais l'échiquier plus gros, plus large, l'Amérique, le monde. Nous, bien sûr, comme voisins québécois et canadiens, voisins des États-Unis, bien sûr. Et là, il y a énormément de choses en suspens parce que cette opération-là, les gens ont dit oui, on va accéder au pétrole, mais c'est encore beaucoup plus que le pétrole, ce qui s'est déroulé au Venezuela.
En plus, on peut se poser des questions sur ce que ça va créer comme brèche un peu partout dans le monde. On a effleuré la question avec notre analyste politique tantôt, Victor Henriquez, mais est-ce qu'on voit une découpure entre les relations de Donald Trump aussi? On dirait qu'on a du mal à suivre. Il se voulait un peu près de ses ennemis économiques, politiques pendant un bout, même quitte à se rapprocher de Vladimir Poutine, d'en faire son ami. Il défendait Vladimir Poutine dans la guerre, l'invasion en fait de la Russie, de l'Ukraine par la Russie. Maintenant, il s'en va jouer dans ses plates-bandes, entre autres avec ce qui se passe au Venezuela, aussi avec tout ce qui se passe en Europe dans cette guerre-là. Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Est-ce que c'est un choix? Où est-ce qu'on se dirige? On est-tu capable d'anticiper un peu?
Première nuance, est-ce que lui sait ce qu'il fait? Son entourage sait ce qu'il fait. C'est-à-dire l'entourage sait ce que l'entourage fait. Donald Trump, dans ce jeu-là actuellement, il est utile parce que c'est lui qu'on va agiter devant les caméras de télévision, devant les journalistes. Mais c'est pas lui qui est derrière l'ensemble de ces politiques-là, mais il incarne bien aux yeux du monde ou encore aux yeux de la population américaine ce qu'on fait actuellement. Maintenant, la façon de voir sous Donald Trump la politique étrangère et le Venezuela, on nous l'a donné carrément avant la période des fêtes. Quand le gouvernement a mis en ligne la nouvelle politique de sécurité nationale des États-Unis, ce qui se passe au Venezuela, j'irais pas jusqu'à dire que c'était écrit noir sur blanc sur mon écran, parce que c'est toujours disponible en passant, hein, on y a accès sur le web, c'est clairement en ligne avec ce que font les Américains. Ce qu'on a aux États-Unis maintenant comme vision, c'est un partage du monde entre grandes puissances, mais ces puissances-là ont changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Grosso modo, ce que veulent les Américains maintenant, c'est des sphères d'influence à l'intérieur desquelles on est très puissant, on est roi et maître, et on est prêt à certains moments à laisser les autres avoir leur propre sphère d'influence. Par exemple, que les Chinois aient le contrôle sur un certain nombre de choses, pour les Américains, ça va, tant et aussi longtemps que vous n'interférez pas chez nous. Le Venezuela, par exemple, la Chine, on n'en parlait pas très souvent, mais elle est omniprésente en Amérique maintenant par des investissements économiques, des relations commerciales. Donc, la Chine était un des acheteurs, par exemple, de pétrole vénézuélien. Donc, ce que Donald Trump envoie comme message, c'est avant que la Chine soit trop près des États-Unis, avant qu'on les ait à Cuba ou en Colombie, avant qu'on les ait au Venezuela, puis avant qu'ils aient des positions stratégiques plus qu'économiques, on veut s'assurer qu'on protège l'Amérique. C'est ça qu'on appelle parfois dans les médias la doctrine de Monroe, hein, ou la formule « l'Amérique aux Américains », mais des fois, c'est l'Amérique aux États-Unis, si on est précis. Donc, c'était clairement en lien avec ce que moi, j'ai lu avant les fêtes. Mm-hmm. C'est pour les Russes et pour les Chinois, gardez ce que vous avez. Il reste quelques zones conflictuelles pour lesquelles on est prêt à négocier sur la scène internationale, mais en Amérique, vous jouez sur notre territoire. Le gros problème... c'est que pour tous les pays d'Amérique maintenant, est-ce qu'on a envie que ce soit le territoire des États-Unis? C'est pas la première fois qu'ils font ça, mais c'est la première fois depuis très longtemps qu'ils sont aussi hostiles en le faisant. Parce qu'au plan du droit international, personne n'aime Maduro, on s'entend là-dessus, mais rentrer dans un autre pays, enlever le chef d'État, ça défie tout ce qu'il y a de droit international. Mais une fois qu'il est rentré aux États-Unis, les Américains ont déjà statué là-dessus, ils vont avoir le droit de le juger. Donc, on était arrivé à ce compromis en disant, peu importe comment un individu qui avait été accusé par les États-Unis rentre aux États-Unis, une fois qu'il est rentré, peut-être que le moyen n'était pas correct. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de pouvoir le juger pour ce qu'il a fait. Donc, on a maintenant des Américains qui ont fait une opération militaire, qui ont déstabilisé tout un régime, qui ont pris la tête de ce régime, qui l'amènent chez eux et ils vont lui réserver une sentence. Donc, on va appliquer la justice contre ce chef-là. Donc, c'est majeur. Et Donald Trump, là, au moment où on se parle, ce ne sont que des mots. Les prochains jours, les prochaines semaines, ça va être drôlement important. Lui a dit, maintenant, c'est nous qui contrôlons le Venezuela. Le gros problème, c'est qu'au Venezuela, j'ai entendu personne dire, oui, c'est les États-Unis qui contrôlent.
Oui, c'est donc, ça. J'ai entendu personne être heureux de ça. Et s'il y a des gens qui sont heureux que Maduro ait quitté, il n'y a personne au Venezuela qui est heureux que Donald Trump et les États-Unis disaient « je vais diriger le pays ». Et là, la problématique, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Luc, et tu me corriges si je me trompe, c'est que c'est Mme Rodriguez qui était la vice-présidente avec la garde rapprochée de Maduro qui prenne, entre guillemets, le contrôle politique de ce pays-là. Et Donald Trump a fermé la porte à la gagnante de la prix Nobel, Maria Corina Machado, et à l'opposant de Nicolas Maduro, González Urrutia. Donc, la population n'est pas plus délivrée de son dictateur à l'heure actuelle.
Non, voilà. Puis ce que je trouvais, c'est très audacieux ce que les Américains ont fait. Je comprenais qu'on veuille démontrer la force américaine. Puis ça, avec la puissance de l'armée américaine, c'est assez facile à montrer. Mais je trouvais que c'était, au-delà d'être audacieux, c'était imprudent. C'est-à-dire que si les Américains, et je ne pense pas que les Américains veuillent débarquer l'armée américaine au Venezuela pour dire qu'on gère vraiment sur le terrain. On préfère laisser ça à d'autres, mais d'autres qui vont s'aligner avec les États-Unis. Mais si ceux qui entouraient Maduro ne sont pas prêts à s'allier aux Américains et que Donald Trump dit que la principale opposante, la gagnante du prix Nobel de la paix, on ne la veut pas, on ne pense pas qu'elle est à la hauteur de la situation, c'est à peu près ce qu'il a dit dans ses propres mots, c'est un chaos sur le terrain pour le Venezuela. Et autre chose, peut-être que les auditeurs, auditrices ont entendu ça aussi, Donald Trump a dit, je vais demander aux compagnies pétrolières américaines maintenant d'entrer au Venezuela, puis on va ramener la production de pétrole du Venezuela à ce qu'elle était il y a quelques années. Le problème, c'est que je n'ai pas entendu ou lu encore de pétrolières américaines qui disent « yes ». On retourne au Venezuela parce qu'eux craignent le chaos. Est-ce que si tu es pour investir des millions ou des milliards de dollars, tu fais ça dans un pays où c'est le chaos puis où il risque d'y avoir des affrontements à l'interne? Mm-hmm. Et avec le prix actuel du pétrole, ça devient également moins intéressant pour les pétrolières américaines. Donc, déjà, dans ce que dit le président américain, si je suis un Vénézuélien, entre guillemets, libre, supposément, j'ai peut-être feinté Maduro. Mais au plan politique, qui va nous diriger, de quelle manière, et le développement économique qu'on espère relancer sous, entre guillemets, un parrainage ou une soumission aux États-Unis, si ça ne se produit pas parce que les pétrolières américaines ne sont pas intéressées, malheureusement, même Maduro parti, pour les Vénézuéliens, et personne ne peut parler en leur nom, hein, c'est eux qui ont vécu un régime autoritaire et une situation économique difficile, mais je vois pas comment ils sortent gagnants de ça non plus au moment où on se parle.
Ben non, puis tu sais, je pense que sans le pétrole, Donald Trump ne fait jamais cette intervention-là, jamais au grand jamais, et il n'a pas réfléchi à délivrer encore un peuple. Et réfléchir pour ses bénéfices personnels et ceux des États-Unis, point barre.
C'est-à-dire que si on ne parle que de politique dure, de force brute, puissance contre puissance, c'est un geste gagnant pour les États-Unis. Est-ce qu'on veut le faire comme ça? Est-ce qu'on veut envoyer promener le droit international, l'équilibre relatif qu'il y avait déjà sur la planète, mais au strict plan stratégique, puis de la force brute contre la force brute, c'est un geste stratégique important. Quand Donald Trump, par exemple, parle ces jours-ci de dire que Cuba devrait se surveiller, ou que son conseiller Stephen Miller a dit le Groenland, ça devrait devenir, hein, finalement, ça devrait passer sous contrôle américain, retenez toujours que c'est la même chose. Ce sont des enjeux stratégiques. Quand on regarde sur la carte, ce sont des lieux de passage qui assurent la protection de la sécurité des États-Unis. On ajoute à ça des réserves de pétrole, ou dans certains cas même ce qu'on appelle les fameux métaux rares. Il y en a également aussi au Venezuela, il y a de l'or. Donc, quand on regarde le Groenland, c'est des ressources, ce sont des milliards de litres de pétrole qu'on n'utilise pas là non plus. Donc, il y a toujours ce mélange. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, les Américains disent dans l'hémisphère ouest, en Amérique, maintenant c'est nous, on tasse les autres. Et pour assurer leur sécurité, puis leur approvisionnement, leur accès aux ressources, aux matières premières, ils s'assurent de contrôler des régions. Ils ne vont pas utiliser l'armée partout. Pour le moment, comme Canadiens, on est très inconfortable, ou en tout cas, on devrait l'être, sans vouloir inquiéter personne. Mais pour l'instant, ils se contentent d'exercer des pressions sur nous qui sont économiques. Il n'y a pas de troupes américaines en marche vers la frontière ou vers une région du Canada, mais on y passe, nous aussi. Et retenez le ton de Trump depuis le moment où il avait dit un peu en boutade à Justin Trudeau à l'époque, on a l'impression que ça fait une éternité.
Ça fait juste un an.
Ben c'est ça. Il lui avait dit, vous êtes le gouverneur du 51e État, là, grosso modo, mais il a joint la parole aux actes depuis ce temps-là. Puis au début, on se disait, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que c'est juste une boutade? Est-ce que c'est Trump? C'est très rare que Trump, dans tout ce qu'il nous a donné de matière, il n'y a pas quelque chose de vrai là-dedans. Même si c'est formulé tout croche ou même si ça a l'air d'une blague au point de départ.
Luc, tu es ex-enseignant en histoire des États-Unis. Tu es également spécialiste en politique américaine. Ça fait 5 ans aujourd'hui, Pascal me faisait remarquer ceci, que c'était l'assaut du Capitole. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à retenir après 5 ans de cet assaut-là en sachant que Donald Trump est de retour au pouvoir et que Donald Trump tente d'étendre justement son pouvoir et le pouvoir des États-Unis partout en Amérique, comme on l'a vu ce week-end?
La première chose, malheureusement, retenez que, puis on est, hein, on le sait, sur les réseaux sociaux, mais dans l'information de plus en plus, on est polarisé, les réactions sont fortes. On est pour ou contre systématiquement. Mm-hmm. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit la journée de cette attaque-là, puis dans les jours qui ont suivi. Moi, j'ai dit, je me souviens très bien d'avoir mentionné et écrit à plusieurs reprises, c'est pas la fin de la démocratie. Mais si on ne prend pas ce qui vient de se passer au sérieux, parce que je sais pas si vous vous souvenez là aussi, hein, mais sur Fox News, du moins certains animateurs de Fox News, on avait dit non, ces gens-là, c'était un peu comme des touristes. Ouais. Ah, il n'avait pas été violent, il y avait, je me souviens, de Tucker Carlson, qui m'avait littéralement, désolé pour l'expression, jeté sur le cul. Mais je me disais, non. Là, on a un président américain qui a demandé à ses partisans de marcher sur le Capitole. Ils l'ont fait. Il y a des gens qui en sont morts. On a saccagé. Rappelez-vous qu'on a condamné tellement de gens auxquels le président, le nouveau président américain, Donald Trump, a accordé une grâce présidentielle. Ouais. Certains d'entre eux étaient littéralement des animateurs, des motivateurs de groupes fascistes ou de groupes d'extrême droite. Plusieurs de ceux qui ont été détenus et graciés sont retombés dans le crime ou ont été interceptés puis sont repassés devant les tribunaux après. Moi, j'avais dit à l'époque, prenez ça au sérieux. J'ai jamais vu ça dans l'histoire récente des États-Unis. De la violence, on en a vu aux États-Unis. Mais attaquer des institutions politiques comme ça, il fallait pratiquement remonter à la guerre de sécession. C'est loin, c'est le milieu du 19e siècle. Et ce qu'on voit actuellement, c'est la suite de l'histoire. Donald Trump 2.0, c'est quelqu'un qui a échappé à tout ce qu'il y avait de poursuites, de jugements potentiels. Le procureur spécial Jack Smith est revenu témoigner devant le Congrès et selon lui, hors de tout doute, on avait toutes les preuves pour condamner Donald Trump jusqu'à un jugement de la Cour suprême et jusqu'à ce que Donald Trump gagne. Je ne pensais pas, ça j'ai expliqué ça en classe et j'ai aucun malaise à le répéter maintenant, je ne pensais pas voir la démocratie en Amérique du Nord être menacée aussi rapidement que ça. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Le pays au sud, qui il n'y a pas si longtemps encore se présentait comme le phare de la démocratie et de la liberté dans le monde, est tourné maintenant ou dirigé par des gens qui souhaitent un régime autoritaire et qui n'ont absolument aucun respect pour les traditions, les lois ou le droit international.
Donc, on est vraiment dans la situation où on est dans la suite de cet assaut au Capitole-là. Et oui, on doit rester sur un pied d'alerte au Canada, comme tu le disais, parce que on n'est pas à l'abri, justement, de tentatives de gain territorial du côté des États-Unis.
Non, voilà, on est vraiment dans une situation particulière. Puis je disais, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve, c'est drôle hein, parce que ça, on couvre ça avec distance, puis parfois j'ai l'impression qu'avec la distance, on le ressent moins personnellement. Mais on vit ce que les Européens vivent, c'est-à-dire qu'on peut avoir près de nos frontières des régimes hostiles. Mm-hmm. Et c'est ce que nous avons. Et ça, écoute, déjà, je pense à ça, puis je me dis, mais j'ai jamais dit ça en 30 ans de carrière en enseignement.
Hey, imagine!
On n'a pas toujours eu des relations faciles avec les États-Unis. Ça a toujours été complexe. Parfois, c'était plus naturel, c'était plus aisé. D'autres fois, c'était plus tendu. Mais jamais rien de comparable à un président qui considère que le Canada est une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Et on le voit déterminé à imposer les États-Unis de toutes les manières possibles sur l'Amérique au grand complet. Donc, ça commence l'année 2026 brutalement. Malheureusement, c'est pas surprenant.
Et il y a une chose surprenante là-dedans pour moi, c'est à quel point Donald Trump est capable d'être imputable auprès de son peuple, de ses fans.
Ouais.
Donc, ça, c'est quelque chose qui... Tu sais, à un moment donné, moi, je verrais de cap. Je pense que la plupart le feraient. Mais encore là, je me trouve même pas assez stupéfaite des agissements de Donald Trump parce qu'il y a une habitude X qui s'est créée à probabilité que Donald Trump agisse de manière...
On finit à un moment donné par devenir un peu insensible tellement on nous balance des trucs sordides à tous les jours. Moi, ce qui me désole le plus là-dedans, puis on me dira si t'as une couleur politique, je le vois pas en termes de couleur politique. Ce qu'on a vu d'abord dans les sondages aux États-Unis, c'est que ce que Donald Trump fait dans l'ensemble de son œuvre, il y a des Américains qui ont décroché, et même parmi les siens, parmi sa base.
Ben, Marjorie Taylor Greene en est un bel exemple.
Oui, mais puis dans la population, dans ses fans ou dans ses partisans purs et durs, combien ont voté pour eux parce qu'ils disaient « on ne va pas faire la guerre ». Il vient de la faire proche de chez eux. C'est un acte de guerre, ce qu'on a fait au Venezuela. Moi, ce qui me déçoit, ce qui me désole énormément, c'est de voir les élus républicains abdiquer complètement leur responsabilité pour rappeler au président « vous ne respectez pas la séparation des pouvoirs, vous prenez beaucoup de décisions. » Écoute, ça, de mémoire, c'est la première fois que ça arrivait. Habituellement, on consulte le Congrès avant une opération militaire. Ou à tout le monde, on les informe que ça va arriver. Mais là, il n'y a eu ni un ni l'autre. Ces gens-là ont découvert ça en même temps que vous et moi. Donc, je suis un républicain, je suis majoritaire à la Chambre, et je me réveille avec « OK, les militaires américains ont enlevé Maduro, puis ils s'en viennent aux États-Unis ». C'est tout sauf normal, surtout pour l'essentiel, les décisions majeures, c'est le Congrès qui devrait les prendre. Et le Speaker Mike Johnson n'ose jamais critiquer Donald Trump, alors que Donald Trump empiète littéralement sur ses droits et ceux de ses élus républicains. Et ça, c'est très dangereux. Le système américain a été pensé en fonction d'un équilibre des pouvoirs. Et c'est là, je disais tout à l'heure, à partir du moment où le président, qui est le pouvoir exécutif, prend même pas la peine d'informer le pouvoir législatif, qui, en passant à la naissance des États-Unis, était le plus important. On parle parfois des pères fondateurs, des penseurs de la Constitution. Dans la tête de tout ce monde-là, le groupe le plus important, c'était les élus au Congrès. à la Chambre et au Sénat, c'était pas le président. Mais là, on a, puis Trump n'est pas tout seul à avoir contribué à ça, là, mais de plus en plus avec le temps, on a maintenant un système où tout est concentré autour du président. Et ça rend les choses dangereuses quand on a quelqu'un qui décide de gérer ça de manière très autoritaire, comme le fait actuellement Donald Trump.
Luc Laliberté, c'est toujours un bonheur et un plaisir de te parler. Je te souhaite une excellente semaine. On va continuer justement à être à l'affût de ce qui va se passer dans ce dossier États-Unis, Venezuela, voir la réaction du Canada et des autres pays aussi. Puis on va souhaiter que ça se tempère un petit peu du côté
ben
des
voilà.
États-Unis.
Souhaitons-nous, pour les auditeurs et pour nous, santé et démocratie en 2026.
Oui.
Ah, quelle bonne idée, Luc Laliberté. Salut mon ami, passe une belle journée.
Bye-bye, bonne journée.
Merci.
Luc Laliberté, ex-enseignant politique américaine au Cégep Garneau et également spécialiste en politique aux États-Unis. Donc, toujours questionnant quand Luc Laliberté, qui a 30 ans d'enseignement derrière la cravate, nous dit « Hey, j'ai jamais vu ça. » J'ai jamais vu les États-Unis être aussi hostiles envers les autres pays en Amérique. Ça m'amène toujours des questions, justement, parce que Luc, c'est une vraie bible de l'histoire des États-Unis.
Puis, je comprends les experts du commentaire américain, des vrais, là, pas ceux qui se sont improvisés experts du Venezuela là, dans les
Non, c'est ça, dans les 48
derniers jours,
dernières
là,
heures.
Toi et moi, nous ne le sommes pas.
Non.
Et nous ne sommes pas non plus experts américains. On fait du commentaire sans plus, mais on s'entoure d'experts.
Exactement.
Mais c'est pas toujours négatif de dire « Oh, on n'a jamais vu ça auparavant. Mm-hmm. » Le problème, en fait, c'est d'aller shaker les bases d'une entente internationale. C'est déjà difficile
c'est
d'en
ça.
Avoir une. C'est tellement d'idéologies qui se côtoient, qui se froissonnent, qui se ramassent, qui se rentrent dedans, qui créent en fait aussi des guerres auparavant.
C'est ça, c'est le jamais vu hostile, moi, qui vient justement là, me mettre sur mes gardes. Là. C'est vraiment ça, c'est l'hostilité présentement. Dans les relations qui fait en sorte là, que je me questionne, puis tu l'as fait à bon escient de nous rappeler que c'était les 5 ans de l'assaut du Capitole, s'il y a bien un événement violent et hostile envers la démocratie. C'est l'assaut du Capitole, il y a de cela 5 ans, le 6 janvier 2021.
Alimenté dans une supposée démocratie.
Exactement. Pascal, on fait une courte pause et par la suite, on va parler avec Éric Gingras, qui est président de la centrale syndicale de la CSQ. C'était leur conférence de presse de début d'année. On va parler avec lui de ces fameux contre-pouvoirs syndicaux-là, des projets de loi de la CAQ. Et on va aussi parler d'éducation parce que la CSQ représente une très grande majorité d'enseignants et également de personnel scolaire. Donc, on va jaser de tout ceci avec lui. Moi, je le dis tout de suite, la centrale syndicale, la CSQ, je trouve que c'est elle qui est le plus terre à terre. Peu de grèves, on négocie avec les gens. Donc, ça va être intéressant de parler de ceci avec Éric Gingras. On va le confronter un peu sur la guerre sociale annoncée par Magali Picard. On va voir comment il va répondre. On jase avec lui. Ah, on en jase immédiatement après cette courte pause sur Boulevard 101.